Journal de Jonathan Harker au château 5 mai. À bord de la diligence, j'ai tout de suite attiré la curiosité des autres passagers. Étonné de voir un sujet britannique si loin de son pays. Ils se sont enquis de raison de ma visite et se sont réjouis de mon émerveillement pour le paysage d'une absolue beauté qui nous traverserons. Ce était une merveilleuse promenade si seulement la route en bosse et en ornière n'avait pas été aussi épouvantable. En fin d'après-midi, la diligence s'est arrêtée au seuil de la passe de Borgo, sinistre en taille dans la montagne que le soleil ne semble jamais devoir toucher de ses rayons. Il faisait déjà sombre et la voiture promise par le comte n'était pas encore arrivée. « Vous devriez poursuivre avec nous, mon conseiller et mes compagnons de voyage, réellement inquiet de m'abandonner dans ce lieu sauvage. Vous reviendrez demain ou plus tard. Ici, les morts voyagent vite. » Devant ma ferme résolution de débarquer, ils m'ont ciblé de toutes sortes de présents. Fleurs d'ail séchées, pétales de roses, colifichets, avec une simplicité si touchante que je n'ai pas eu le cœur de refuser. J'ai noté que les Transylvaniens sont particulièrement superstitieux. Ils signent pour un rien, portent foule de talismans pittoresques et redoutent par-dessus tout la tombée de la nuit. J'en veux pour preuve la hâte avec laquelle le cocher s'est empressé de descendre mes bagages. Il a bien tenté une dernière manœuvre pour me dissuader. Et puis, quelque chose l'a visiblement intrigué dans la pénombre. Il s'est hâté de monter sur son siège et a fouetté ses bêtes. Je n'ai guère eu à attendre. À peine la diligence eut-elle disparu au détour de la route qu'une berline menée par un splendide attelage de chevaux noirs dévala dans la passe pour s'arrêter devant moi dans un grand fracas. Le conducteur de haute taille portait un manteau et un chapeau à large bord qui masquaient une partie de son visage. Il a salué et ses yeux ont rougeoyé dans la clarté des fanaux. La diligence était bien pressée, s'est-il esclaffé. Montez, je me charge des bagages. J'ai obtempéré sans tarder, tandis que l'homme hissait mes malles à l'arrière avec une aisance qui trahissait une force impressionnante.
Journal de Jonathan Harker au château 7 mai. Il est important que cette demeure possède une histoire, m'a-t-il confié, de même qu'une chapelle attenante. J'appartiens moi-même à une très ancienne dynastie, et nous autres, nobles de Transylvanie, n'aimons guère frayer avec le commun des mortels. Je ne suis plus si jeune, j'ai pleuré bien des morts, enduré bien des chagrins, je n'ai plus le goût au plaisir de ce monde, aux distractions futiles. Je n'aime rien tant que rester dans l'ombre, seul avec mes pensées, avec mes souvenirs. Son sourire glacé donnait un curieux sens à ses paroles. « Avez-vous écrit depuis votre arrivée ? » s'est-il enquis avec brusquerie. « Non, je vous en prie, cher monsieur Harker. Il faut vous soumettre à ces tâches sans délai. » À mon grand étonnement, il a sorti le nécessaire du tiroir d'un secrétaire et il l'a disposé devant moi. « D'abord, à votre directeur, m'a-t-il dicté, mon bon ami Dr. Hawkins, puis à votre fiancé, à vos proches, tous ceux qui savent que vous êtes ici. Écrivez-en plusieurs, datés de jours différents, car vous n'aurez plus guère le temps de le faire à compter de demain. Remettez-moi ensuite l'ensemble de ce courrier. Je veillerai personnellement à ce qu'il parte dans les délais appropriés. » Pour insolite qu'était la requête, j'ai pourtant dû m'y conformer. Tout le temps que j'écrivais, j'ai senti l'œil du comte par-dessus mon épaule. Aussi me suis-je gardé de confier mes sentiments réels et intimes, en particulier à ma chère Mina, qui trouvera ses missives bien distantes. Sitôt ses missives cachetées, mon hôte s'en est allé avec une hâte suspecte.
Journal de Jonathan Harker au château 12 mai. Comme j'étais incapable de dormir, je suis retourné dans la tour du guet exposée au sud. Le seul endroit où j'ai l'impression d'échapper à l'atmosphère pesante du reste de la demeure. Ici, mes nerfs trouvent un peu d'apaisement. Alors que je me penchais par la croisée qui dominait les environs jusqu'au lacet d'une rivière, mon attention a soudain été attirée par un mouvement sur la paroi en contrebas. Quel saisissement a été le mien quand j'ai reconnu le comte en personne. Il avait émergé d'une fenêtre en aplomb de la mienne, et telle d'une ville-araignée, il rampait maintenant sur la paroi de vieilles pierres en équilibre au-dessus de l'incommensurable abîme. D'abord, je n'ai pas voulu en croire mes yeux. J'ai songé à quelques illusions nées des ombres qui s'allongeaient sous le clair de lune. Mais non, il s'agissait bien du comte. Quelle sorte d'homme était cela? Ou plutôt, quelle sorte de créature qui se déplaçait ainsi? Vite, il a disparu par une faille et je suis resté un long moment à ma place, pantelant, horrifié par cette vision.
Journal de Jonathan Harker. Au château, 12 mai plus tard. Nul autre que moi n'a connu pareille angoisse à l'approche de la nuit, ni plus grand soulagement à l'approche de l'aube. Je dois cesser de me morfondre et enfin passer à l'action. Agir de jour pendant que je dispose de quelques heures de liberté. Jamais le comte ne m'est apparu avant le coucher de soleil. Je commence à penser qu'il dort, tandis que nous autres simples mortels sommes éveillés. Si seulement je pouvais m'échapper de cette maudite chambre, il a soigneusement verrouillé la porte. C'est sans issue? Sans issue? Non, à condition d'abolir toute une crainte. Toute conscience du risque. Ma situation est désespérée. À mon tour, ne serais-je pas capable de me risquer à descendre le mur? Au pire, qu'est-ce que je risque? La mort? Ce n'est qu'une perspective beaucoup moins sinistre que celle de me retrouver seul ici. Comme un cauchemar, je me vois enjamber le rebord de la fenêtre et m'aventurer au dehors. Est-ce que je suis en train d'accomplir ce que je crois? Le vent fouette mon visage. Pouce après pouce, je prends appui sur les moellons coupants et commence ma périlleuse descente. J'ai déjà mesuré la distance qui me sépare de la chambre du comte en contrebas. Quelques mètres tout au plus. L'excitation éteint toute peur en moi. Bientôt, j'atteins le rebord de sa fenêtre, une simple ouverture ronde dépourvue de volets de vitrage. Je découvre une vaste pièce meublée d'antiquités. Dans un coin, trône un tas de pièces d'or anciennes que recouvre une pellicule de poussière. Un imposant sépulcre de pierre se dresse ici, au flanc gravé d'un seul nom, Dracula. Je me penche par-dessus le rebord de pierre ancienne. Le comte est là. Il gît sur un lit de terre fraîche. Je ne saurais pas dire s'il est mort ou simplement endormi. Comme il paraît avoir rajeuni, sa moustache, ses cheveux ne sont plus blancs, mais d'un surprenant gris d'acier. Ses joues ont pris une teinte de la vie. Une perle de sang coule à la commissure de ses lèvres. Pourtant, aucun mouvement, aucun souffle. Son cœur ne bat plus. J'éprouve l'idée irrépressible de le toucher, quoique cette idée me révolte. Alors que je tends mes doigts vers lui, sa tête se tourne lentement. Un sourire moqueur affleure ses lèvres. C'est plus que ma raison et mon courage ne peuvent supporter. Je dois fuir. Je recule vers la fenêtre. Avec quelle joie je pressens la subtile fraîcheur de l'aube qui monte derrière moi. Je suis sauvé. Oui, sauvé.
Article du Télégraphe. Journal de bord du commandant du Déméter. Juillet. Des événements si étranges sont survenus que je dois à tout prix les relater. Avant notre arrivée, le 6 courant, nous avions chargé comme convenu une importante cargaison de caisses de terre. Levez l'ancre à l'aube. Vent d'est. 5 hommes d'équipage en tout. Le 11, nous traversons le Bosphore. Inspection des douanes turques. Nous passons. Le 12, détroit des Dardanelles. Bakchich encore. Hier,
Le 17, mon second est venu dans mes quartiers pour me faire part de l'inquiétude des hommes. Il assure qu'un homme pâle est à bord, qu'il l'a personnellement vu errer sur le pont. C'est le problème avec les Roumains. Ils sont d'un naturel si suspicieux qu'un rien les plonge dans l'anxiété la plus irrationnelle. Le 22, rue de Grand, depuis 3 jours. Tout le monde est à l'ouvrage. Passé Gibraltar dans la difficulté. Le 24, nous sommes probablement victimes d'une sorte de malédiction. Le grain ne nous lâche pas. Il nous a poursuivis jusqu'à la baie de Biscay. Un marin est porté disparu. Les hommes ont à nouveau peur. Ils exigent double paye à notre arrivée. Le 28, 4 jours d'enfer, emportés par je ne sais quel maelstrom. Nous n'osons plus fermer l'œil. Le pilote se dévoue pour prendre le car et nous permettre de dormir enfin. Au matin du 29, il manque à l'appel. Cette tragédie sème l'effroi à bord.
Journal de Mina Murray, Wifby, 11 août. Aux alentours de minuit, j'ai encore été réveillée par un bruit de chez Lucie. Je me suis aussitôt précipitée. La pièce était plongée dans l'obscurité et j'ai frotté une allumette pour constater avec effroi que le lit était vide. J'ai hésité à prévenir sa mère. À quoi bon effrayer cette pauvre femme, qui souffre d'une maladie du cœur depuis plusieurs années. Les vêtements de mon amie se trouvaient encore dans la penderie. Au moins, elle n'avait pu aller bien loin, seulement vêtue de sa chemise de nuit. J'ai fouillé en vain toutes les pièces de la maison. Je suis descendue dans l'entrée et j'ai découvert la porte béante qui laissait s'engouffrer un vent froid. Sans prendre le temps de réfléchir, je me suis couverte d'un châle et me suis précipitée dehors. J'ai parcouru les rues environnantes sans trouver âme qui vive. Le clocher a sonné 1 heure alors que je me trouvais à Crescent Street. De là, j'ai couru à North Terrace. Mais là encore, aucune trace de Lucie. Je commençais à redouter le pire. Quand l'idée m'a traversé qu'elle aurait pu se rendre au vieux cimetière. Je fus empli de soulagement et d'effroi en apercevant Lucie assise sur notre fameux banc. Il faisait un beau clair de lune, mais de gros nuages noirs, chassés par le vent, la voilaient de temps à autre, pour tout recouvrir d'une obscurité impénétrable. Pendant un temps, j'ai été incapable de rien distinguer, car l'église de Sainte-Marie et ses environs étaient noyés dans une totale pénombre. Bientôt, cependant, la lune a de nouveau éclairé les ruines de l'abbaye. Puis peu à peu, l'église et le cimetière. La lumière argentée nimbait à nouveau la silhouette blanche, figée comme une statue d'albâtre. Mais elle n'était plus seule. Une forme ténébreuse était penchée au-dessus d'elle. Homme ou bête, je n'aurais pu le dire. Je l'ai appelée de toutes mes forces. Lucie ! Lucie ! Je suis certaine d'avoir vu un visage blafard dans cette masse sombre, qui se tournait vers moi pour me fixer de ses yeux rougeoyants.
Lettre de Mina Murray, Budapest, 24 août. À l'hôpital Sainte-Marie, je l'ai trouvée dans un grand état de faiblesse, plus maigre et plus pâle que je ne l'avais jamais vue. Il n'avait plus dans les yeux cette fermeté, cette résolution, ni sur les traits cette calme maîtrise qui sont sa marque. Pour tout dire, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Il ne se rappelait plus de rien de ce qui lui est arrivé ces derniers temps, ou du moins, c'est ce qu'il a voulu me faire croire. Je ne veux pas le forcer à me raconter ces événements, car, à l'évidence, il a reçu un choc vraiment terrible. Sœur Agatha est une excellente femme. C'est elle qui a pris soin de lui depuis son arrivée. Elle m'a confié qu'il faisait des cauchemars effrayants, durant lesquels il raconte des choses terribles. Elle n'a pas voulu m'en dire davantage, arguant que ce genre de révélation, surprise à l'insu de dormeur, s'apparente à des secrets de confession. Soit, je t'écris assise au chevet de Jonathan. Je le regarde pendant qu'il dort. Tout à l'heure, parfaitement éveillé, il m'a demandé son veston et, dans une de ses poches, il a saisi son calepin où, comme moi, il a coutume de noter les faits marquants de sa journée. Il m'a alors dit d'un ton très grave « Wilhelmina, il est si rare qu'il m'appelle ainsi par mon nom complet. Ma chérie, ne m'en veux pas, j'essaye encore de comprendre ce qui m'est réellement arrivé. Et quand je m'y efforce, une sorte de vertige me gagne. mais tout est là, dans ce carnet, le secret de ce qui m'est arrivé. Je ne veux plus le connaître, je veux que ma vie reparte à zéro. Wilhelmina, veux-tu m'épouser ? Oui, ici, sans perdre un instant, prends ce carnet, prends-le, garde-le, et si tu en as envie, lis tout ce que j'y ai écrit. Mais ne m'en parle jamais. Pour moi, ceci ne peut pas avoir existé.
Lettre du docteur John Seward à Arthur Almwood, Whitby, 3 septembre. Van Helsing est venu, puis il est parti. Je l'ai retrouvé tel que je l'avais quitté il y a des années. Grand, sec, ses cheveux étalés en ailes de corbeau, de part et d'autre, d'un fond intellectuel. Il s'est livré à un examen de plus attentif sur Lucie et ma présence, après avoir gagné sa confiance avec une rapidité qui m'a stupéfié. Voici de quelle façon cela s'est passé. Nous avons trouvé Lucie d'excellente humeur, toujours badine et agréable comme tu la connais. Pourtant, sous cette apparence d'amabilité, elle faisait bien des efforts pour échapper à des sombres pensées. Et cela ne nous a échappé ni à l'un ni à l'autre. Van Helsing a commencé à lui parler de choses et d'autres sur un mode badin qui n'appartient qu'à lui, en évitant soigneusement d'évoquer tout ce qui se rattache aux maladies. C'est un privilège à mon âge d'avoir encore le plaisir de faire la connaissance de jeunes et jolies personnes, s'est-il flatté. Je le dois à mes anciens élèves. Celui que vous voyez là, ce John, me dit que vous êtes affaibli, en mauvaise santé. C'est à quoi que je lui ai répondu « Pfff, baliverne !» Et nous allons sur le champ le lui démontrer, n'est-ce pas ?
Il m'a glissé l'un de ses regards intimidants sous ses sourcils en broussaille, comme à l'époque où je répondais des bourdes en classe.
« Auriez-vous l'obligeance d'aller fumer une cigarette sur la terrasse, John ? Les jeunes filles ne se confient pas aux jeunes hommes, » a-t-il enchaîné. « Mais à des vieux monsieur comme moi, sinon où irait le monde ? Je connais l'amitié, et même davantage, que vous pouvez éprouver pour cette jeune personne, et je vais vous dire le fond de ma pensée, que vous répéterez mot pour mot à son fiancé. Il ne s'agit pas de l'écubration de ma part, mais d'une affaire de vie ou de mort, et même davantage. Le mal de Lucie vient parce qu'elle a perdu beaucoup de sang, mais sur le point je vous rejoins. Il ne s'agit pas d'une anémie commune. »
Je l'ai pressé de m'en dire plus, mais il a refusé de me livrer le moindre indice sur ses raisons de prendre la situation sur un mode aussi dramatique.
« Je dois retourner à Amsterdam, » a-t-il lâché. « J'ai besoin de réfléchir et d'ouvrir quelques livres. Je reviendrai. Non pour vous, notez bien, mais pour elle. »
Ne lui en veuillez pas, Art. Quand le professeur entretient ce flou, ce qu'il demande à son esprit d'exercer ses capacités maximum, il nous révélera d'ici peu ses conclusions. N'ayez aucun doute à ce sujet. John.
Journal du docteur John Seward, 7 septembre. Ne vous méprenez pas, la détrompa Van Helsing. Il ne s'agit pas de fleurs ordinaires, ce sont des remèdes. Non, non, ne faites pas la grimace. Vous n'aurez pas à les avaler. Promettez-moi de porter cette guirlande autour du cou. Je l'ai fabriquée de mes mains. Disons qu'il s'agit là d'un charme magique destiné à guérir les jeunes demoiselles telles que vous. Lucie a accepté avec une réticence visible, comme si elle était indisposée par la forte odeur de l'ail qui en émanait. Mais Van Helsing n'a pas son pareil quand il s'agit de faire entendre raison à un malade capricieux. 20 septembre. Nous avons suivi à la lettre les recommandations de Van Helsing. À tour de rôle, nous avons monté la garde dans la chambre voisine, établissant un véritable campement comme au temps où jeunes aventuriers, nous parcourions plaines d'Amérique et taïga de Russie en quête de gibier prodigieux et d'aventures. Et pendant un certain temps, cette vigilance a généré une réelle amélioration chez Lucie. Il semblait que nous remportions notre lutte contre le mal qui la rongeait. Ce matin, j'ai dû céder à la fatigue. C'est la rude poignée de Van Helsing qui m'a éveillé. Il portait encore son chapeau et son manteau de voyage.
Comment va-t-elle ? S'est-il enquis avec brusquerie. Je me suis frotté les yeux et je l'ai introduit dans la chambre de Lucie, où filtraient les premiers rayons de l'aube, pour découvrir le désastre hélas. La fenêtre était grande ouverte, les guirlandes de fleurs dispersées aux quatre coins de la pièce, et Lucie gisait en travers du lit, pâle et rigide. Je ne suis pas prêt d'oublier son apparence décharnée. Encore accusée par les cheveux trempés de sueur, la pâleur de son teint qui la rendait presque méconnaissable, sa bouche entrouverte laissait effleurer ses dents, si blanches, si curieusement effilées, en particulier les canines qui en devenaient proéminentes dans la lumière capricieuse du petit jour. « Grand Dieu !» s'exclama le professeur. « Vite, vite !» Il s'est penché sur elle et a tenté de la ramener à la conscience, mais elle semblait avoir glissé dans un songe sans fin. Son souffle était à peine perceptible. Il a voulu examiner les blessures de sa gorge, couvertes par le foulard de soie. Elles avaient complètement disparu. Ce détail qui aurait dû lui apporter quelques consolations l'a au contraire plongé dans le désespoir. « Elle va mourir, John », m'a-t-il froidement annoncé.
Quand nous sommes entrés dans la chambre, j'ai noté que Van Helsing avait disposé Lucie de façon qu'elle offrit le visage le plus séduisant en cette occasion funeste. Il avait même brossé ses cheveux, qu'il avait étalés sur les oreilles. Elle semblait dormir, si pâle, si pure. Arthur s'est assis auprès d'elle, tandis que Quincey demeurait plus en retrait, par pudeur. Alors que son fiancé prenait sa main pour la couvrir de baisers et de larmes, Lucie a brusquement ouvert les yeux. « Arthur, mon amour, je suis si heureuse que tu sois venu. Je t'en prie, embrasse-moi. » Et notre ami allait s'exécuter, quand le professeur s'est interposé avec toute son autorité et, saisissant Arthur par le col, l'a tiré en arrière sans ménagement. « Tenez-lui plutôt la main. Cela la réconfortera davantage, » a-t-il conseillé. Quoique stupéfait par ses réactions, Arthur a obtempéré et il s'est agenouillé auprès de la mourante. Et curieusement, celle-ci a paru lui en être reconnaissante. Sa poitrine s'est soulevée encore quelques instants. Et puis, elle a exhalé son dernier soupir, qui a paru flotter dans la pièce, tel celui d'un enfant là. Nous sommes restés pétrifiés de chagrin, de stupeur. Enfin, après tant de souffrances, me suis-je lamenté. « Détrompez-vous, John, » a déclaré Van Helsing. « Ceci n'est pas la fin, ce n'est que le commencement. »
Journal de Mina Harker, 29 septembre. « Madame Mina, » m'a-t-il déclaré, il m'appelle ainsi. « C'est un privilège pour moi de rencontrer la meilleure amie de Mademoiselle Lucie. Ainsi que je vous l'ai écrit, j'ai eu l'occasion, vous m'en pardonnerez, de parcourir votre correspondance et tous les détails au sujet de sa maladie. Pourtant, j'aimerais obtenir de vous des précisions supplémentaires, notamment en ce qui concerne ses crises de somnambulisme. N'omettez rien, chaque détail est important. » Mais au fond, ai-je conclu, peut-être vous plairait-il de lire directement mes journaux intimes. J'en serai très honorée, Madame Mina. C'est une marque de confiance qui me va droit au cœur. J'ai empilé mes cahiers devant lui. Il s'est installé dos à la fenêtre pour mieux profiter de la lumière du jour. Le soir venu, tandis que la servante allumait les lampes, il a refermé le dernier carnet et déclaré avec gravité « Vous n'imaginez pas à quel point ce témoignage m'est précieux, Madame Mina. » La vie est emplie de ténèbres, mais aussi de grandes lumières, et vous êtes l'une de ces lumières. Je dirais même mieux, vous êtes une femme de très grande valeur. Professeur, vous me flattez beaucoup, c'est à peine si vous me connaissez. J'ai beaucoup vécu et beaucoup étudié la nature humaine. Je ne me trompe jamais sur la qualité des êtres que je rencontre. Ce journal est à votre image. Chère Madame Mina, je vous en prie, reprenez-vous. Jonathan n'aimerait pas vous voir dans pareil état. Je vous l'ai dit, j'ai consacré mon existence entière à l'étude et, par conséquent, je n'ai guère eu le loisir d'avoir une vie personnelle. J'ai été mariée dans le temps, oui, Ce fut une douce période. Quant à nouer des amitiés, c'est un luxe que je n'ai pu me permettre, à l'exception faite du docteur Seward. Notre ami John, que vous connaissez indirectement par Mademoiselle Lucie. Et maintenant, depuis quelques jours, il me semble brusquement découvrir un univers inconnu, celui des liens fraternels, d'amitié profonde et d'amour indestructible, toutes ces valeurs humaines que j'avais perdu espoir de rencontrer un jour. Ainsi, il existe donc, de par le monde, de tels sentiments entre mes semblables, des sentiments vrais, simples. John, Quincy et Arthur s'aiment comme des frères. Arthur adorait Mademoiselle Lucie. Vous adorez Jonathan, et la réciproque est certainement vraie. À compter de ce jour, je me sens un devoir envers vous. J'ai compris que votre mari avait tenu un journal durant son séjour dans les Carpates. Montrez-le-moi. Vous allez prendre Jonathan pour un fou, ai-je prévenu. Et vous me prendrez pour une folle, car je crois en chaque mot qu'il a écrit. Eh bien, je m'associerai à cette confrérie de démons. À peine rassurée, j'ai ouvert le secrétaire fermé à clé où je conservais le journal maudit et je lui ai tendu. Je vous en conjure, ne souriez pas de ce qui se trouve dans ces pages. Par avance, préparez-vous à découvrir d'étranges et effrayantes choses. Il a passé la soirée à lire et je lui ai fait porter une collation qui a à peine troublé sa concentration. Au final, il a refermé le carnet. Non, votre mari n'est pas fou. Et vous non plus. Je puis vous l'assurer, avec toutes les connaissances qui sont miennes. Pas un mot là-dedans n'est inventé. Tout est vrai, mortellement vrai.
Journal de Jonathan Harper, même jour. Depuis des mois, j'avais l'impression de me mouvoir dans les ténèbres. Je doutais de ce que j'avais vu, de ce que j'avais entendu. Et maintenant, c'est comme si un voile s'était déchiré, révélant les événements dans la clarté crue d'un jour nouveau. Je n'ai plus peur, même du comte. Il a réalisé son projet. Il a triomphé. Il est à Londres, bête tapis, parmi une population vulnérable et incrédule. C'est bien lui que j'ai aperçu à Piccadilly. Aucun doute là-dessus. Plus jeune, oui. Mais je pense savoir par quel maléfice. Si tout ce que Mina m'a confié au sujet de Van Helsing est vrai, alors il est le seul qui puisse le démasquer et le traquer. J'ai tenu à m'en assurer moi-même et, accompagné de ma chère épouse, je suis allé lui rendre visite le soir même à l'hôtel où il est descendu près de chez nous. Il a paru surpris de me voir, mais il m'a accueilli avec une simplicité tout à fait charmante. Madame Mina m'a dit que vous étiez malade. En état de choc, vous n'en avez pas l'air. C'était cocasse d'entendre ce gaillard imposant en deux âges, au visage si buriné, désigner ma femme ainsi, Madame Mina. J'étais malade, c'est vrai, et en état de choc, mais vous m'avez guéri, définitivement. Ah, je posséderais donc un pouvoir insoupçonné de soigner à distance? A-t-il plaisanté avec un fort accent flamand en tirant sur son cigare? Non, tout bonnement, en levant les doutes qui empoisonnaient mon cerveau. L'incertitude est le pire cauchemar qui soit. Il a paru ravi de mon état d'esprit. Nous a fait asseoir avant de déclarer solennellement. Je suis avec vous, corps et âme, comprenez-vous, Jonathan. À compter de cet instant, nous sommes liés pour la vie. Tous, Arthur, John, ce brave Quincy, dont vous ferez bientôt la connaissance. Nous ne devrons plus avoir aucun secret les uns pour les autres. Ce sera notre force, car à compter de maintenant, nous formons un cercle invulnérable. Nous formerons une horde, avouée à un seul et unique but. Traquer et détruire le comte Dracula. N'oubliez pas, la connaissance est la meilleure arme contre l'ennemi.
Journal du docteur John Seward, Pufflit, 1er octobre. À 8h du soir, nous étions tous enfin réunis dans ma salle de réunion. Installé de part et d'autre de la longue table, Van Helsing s'est levé avec le calme et l'autorité d'un magistrat. À ses côtés, Mina prenait des notes. Le silence se fit. Quelques heures encore auparavant, certains d'entre nous ne se connaissaient que par ouï-dire. Maintenant, nous éprouvions tous ce lien infectible qui nous unissait en face d'un adversaire hors du commun. Un pacte solennel nous rassemblait. Je suppose que vous avez tous pris connaissance des témoignages des uns et des autres, a déclaré le professeur. Avant d'agir, avant d'en venir aux moyens dont nous disposons pour combattre notre ennemi, nous devons en connaître la nature profonde. Dracula est un Nosferatu, un vampire dans notre langage, un suceur de sang. Il ne meurt pas après avoir mordu sa victime à la façon d'une abeille qui ne survit pas à sa piqûre. Non, bien au contraire. Ses pouvoirs s'accroissent encore et le rendent plus dangereux s'il est possible. Il possède la force de 20 hommes et son esprit qui n'est tourné que vers un seul calcul, un seul but, la volonté de survivre, et façonné par des siècles d'expérience. Il a eu tout le temps d'affiner sa ruse et sa connaissance des humains, la manière dont il s'est attaqué à Jonathan, puis à son entourage, proche ou lointain. En est la preuve. Il fallait bien commencer quelque part, n'est-ce pas ? Van Helsing s'est permis un petit rire glacé. Il n'a jamais pu s'empêcher de glisser une provocation dans l'un de ses cours. Dracula est un démon capable de se déplacer à la vitesse de la pensée et d'imposer son autorité par la seule force de sa présence, de son regard. Nous sommes faibles en face de ce seigneur, d'autant qu'il sait nouer des alliances avec certains animaux et corrompre le cœur des hommes à la morale chancelante. Ses victimes, infectées, lui sont inféodées. Il est capable de prendre des formes différentes et d'agir sur les éléments, tels le vent, la tempête, le brouillard. Je lis dans vos yeux la peur. Croyez-vous que je n'ai pas peur aussi? Et qui ne serait glacé de terreur à l'idée de mesurer à pareille créature? S'il arrive à nous vaincre, ce n'est pas tant de perdre la vie qui doit nous inquiéter que la perspective de le voir à jamais se rendre maître de notre civilisation. Des siècles durant, le comte est resté confiné dans son château. Quelle forme de lassitude l'a saisi pour qu'il court le risque de s'en éloigner? Quelle sorte d'appétit monstrueux! Loin de sa terre natale, le vampire se trouve en danger, car c'est sur elle qu'une fois ses forfaits accomplis. La lumière du jour revenue, il doit se reposer. Voici pourquoi il a pris soin de voyager avec 50 caisses de terre. Espérons qu'elles se retrouvent toutes dans la maison voisine. Car s'il a pris soin de les disperser, cela rendra notre tâche plus ardue. Journal du docteur John Seward, Pufflit, 1er octobre. À 8h du soir, nous étions tous enfin réunis dans ma salle de réunion. Installé de part et d'autre de la longue table, Van Helsing s'est levé avec le calme et l'autorité d'un magistrat. À ses côtés, Mina prenait des notes. Le silence se fit. Quelques heures encore auparavant, certains d'entre nous ne se connaissaient que par ouï dire. Maintenant, nous éprouvions tous ce lien infectible qui nous unissait en face d'un adversaire hors du commun. Un pacte solennel nous rassemblait. Je suppose que vous avez tous pris connaissance des témoignages des uns et des autres, a déclaré le professeur. Avant d'agir, avant d'en venir aux moyens dont nous disposons pour combattre notre ennemi, nous devons en connaître la nature profonde. Dracula est un Nosferatu, un vampire dans notre langage, un suceur de sang. Il ne meurt pas après avoir mordu sa victime à la façon d'une abeille qui ne survit pas à sa piqûre. Non, bien au contraire. Ses pouvoirs s'accroissent encore et le rendent plus dangereux s'il est possible. Il possède la force de 20 hommes et son esprit qui n'est tourné que vers un seul calcul, un seul but, la volonté de survivre, et façonné par des siècles d'expérience. Il a eu tout le temps d'affiner sa ruse et sa connaissance des humains, la manière dont il s'est attaqué à Jonathan, puis à son entourage, proche ou lointain. En est la preuve. Il fallait bien commencer quelque part, n'est-ce pas? Van Helsing s'est permis un petit rire glacé. Il n'a jamais pu s'empêcher de glisser une provocation dans l'un de ses cours. Dracula est un démon capable de se déplacer à la vitesse de la pensée et d'imposer son autorité par la seule force de sa présence, de son regard. Nous sommes faibles en face de ce seigneur, d'autant qu'il sait nouer des alliances avec certains animaux et corrompre le cœur des hommes à la morale chancelante. Ses victimes, infectés lui sont inféodés. Il est capable de prendre des formes différentes et d'agir sur les éléments, tels le vent, la tempête, le brouillard. Je lis dans vos yeux la peur. Croyez-vous que je n'ai pas peur aussi ? Je serais glacé de terreur à l'idée de mesurer à pareille créature. S'il arrive à nous vaincre, ce n'est pas tant de perdre la vie qui doit nous inquiéter que la perspective de le voir à jamais se rendre maître de notre civilisation. Des siècles durant, le comte est resté confiné dans son château. Quelle forme de lassitude l'a saisi pour qu'il court le risque de s'en éloigner ? Quelle sorte d'appétit monstrueux ! Loin de sa terre natale, le vampire se trouve en danger, car c'est sur elle qu'une fois ses forfaits accomplis. La lumière du jour revenue, il doit se reposer. Voici pourquoi il a pris soin de voyager avec 50 caisses de terre. Espérons qu'elles se retrouvent toutes dans la maison voisine. Car s'il a pris soin de les disperser, cela rendra notre tâche plus ardue encore.
Journal du Dr John Seward, Purfleet, 1er octobre. Mais que faire si nous ne pouvons pas le blesser ou le contraindre pour aucun moyen ? S'est agacé Jonathan. Il est capable de prodiges, oui, a répondu Van Helsing. Mais il n'en est pas en moins prisonnier dans son propre corps et doit lui-même s'en conformer à certaines règles. Toutes les portes ne lui sont pas ouvertes. Il doit au préalable être invité à entrer. Mais une fois franchi ce seuil, il pourra aller et venir à sa guise. Sous quelle forme s'est-il présenté à Lucie pour la convaincre ? Muni de quel artifice trompeur ? Nous ne le saurons probablement jamais. Son pouvoir de fascination est immense. La nuit appartient aux vampires, mais contrairement à une idée répandue, il peut également se risquer dehors aux heures claires, surtout à midi. La lumière du soleil lui est néfaste, car elle le prive d'une grande partie de ses pouvoirs, mais non fatale. La preuve, Jonathan, vous l'avez aperçu à Piccadilly. Le vampire ne peut franchir les eaux vives qu'à marée haute, et c'est à marée haute qu'il a accosté à Whitby. Les fleurs d'ail lui ôtent son pouvoir, car leur fragrance rappelle celle de l'arsenic, qui est le poison entre les poisons, celui qui rend le sang impur et intouchable. Il ne saurait se refléter dans les miroirs, car au fond, sa vraie nature est celle du nombre, et telles les personnes trop laides, il n'en supporte pas la vue. Il est repoussé par les artefacts sacrés, tels les crucifix, bibles et eaux bénites, en nos contrées, mais plus encore par la foi et le courage de ceux qui les munissent. Le meilleur moyen de le détruire est non de le tuer, notez bien, car il est déjà mort, c'est de lui trancher la tête ou de lui enfoncer une pointe dans le cœur, de bois ou de fer, qu'importe, béni ou non. Notre stratégie sera simple. Contraindre Dracula à battre en retrait pied à pied. Détruire patiemment et successivement chacun de ses repères, comme je l'ai fait aujourd'hui à Whitby, et à la fin, procéder au rituel de sa destruction.
Journal de Jonathan Harker, Asile du Purfleet, 4 octobre. J'ai trouvé Mina déjà debout, en proie à une vive agitation.
Va chercher le professeur, je crois que j'ai une idée.
Quoi ? Maintenant ?
C'est important, va.
Elle paraissait si sûre d'elle que je me suis conformée à son désir. Dans le couloir, je suis tombée sur John Seward qui somnolait sur une chaise. Il avait dû monter la garde toute la nuit. En me voyant hirsute en robe de chambre, il a sauté sur ses pieds.
Quelque chose est arrivé.
Tout va bien, John. Mina veut simplement voir le professeur.
Je vais le réveiller.
Un instant plus tard, Van Helsing pénétrait dans notre chambre, à peine mieux réveillé que les autres qui faisaient cercle autour de nous. Arthur, Quincy, John, nous étions réunis au rang complet.
Que me vaut le plaisir d'être appelé de si bonne heure, Madame Mina. J'envie votre teint frais, savez-vous. Que n'ai-je votre recette pour paraître toujours plus jeune?
J'ai fait des rêves étranges, professeur. Il me parle dans mon sommeil. J'entends sa voix. C'est comme s'il habitait mon esprit. Alors j'ai une idée. Vous avez parlé l'autre jour de l'hypnotisme. dans une conversation. Cette technique permet d'entrer en contact avec l'inconscient d'une personne. C'est ce que vous m'avez dit, n'est-ce pas?
Je le confirme. Je l'ai expérimenté à de nombreuses reprises.
Vous devez m'hypnotiser maintenant. Au matin, il relâche son pouvoir sur moi, je le sens. S'il est vrai qu'il peut m'utiliser, voir par mes yeux, entendre par mes oreilles, supposons alors que la réciproque soit vraie. Si je me trouve dans un état second, vous seriez capable de remonter le fil invisible qui me relie à lui.
Le sourire aimable de Van Helsing s'est effacé, et son visage s'est empreint d'une grande solennité.
Vous êtes réellement admirable, Madame Mina, mais vous devez savoir que ce ne sera pas sans risque. Vous devez avoir une confiance absolue en moi, vous abandonner entièrement.
Je suis décidée.
Journal de Mina Harker, même jour, Purflet. Van Helsing a pris la parole et échafaudé devant nous son plan de bataille. Résumons. Le tsarine Catherine sangle vers Varna. Si favorable que soit vent et courant, il n'atteindra pas sa destination avant 3 semaines, selon mes estimations. Or, nous autres mortels, nous pourrons atteindre les bords de la mer Noire en 3 jours. Pourtant, prenons garde. Ne mésestimons pas la capacité de Dracula à ralentir notre progression. Nous aurons peut-être affaire à des événements inattendus, inexpliqués, qui nous retarderont. Même ainsi, nous avons devant nous 2 semaines. C'est plus ce qu'il nous en faut. Préparons-nous, armons-nous, aussi bien physiquement qu'intellectuellement. Nous allions quitter la pièce quand Mina est apparue sur le sol. Elle paraissait très calme, mais si pâle qu'elle ressemblait à un spectre. Elle s'est avancée vers le professeur d'une démarche légère, presque irréelle. Je sais que vous vous méfiez de moi, tous, à juste titre. Laissez-moi vous accompagner. Je dois vous accompagner. Comme mon maître devait élever un argument contre cette idée, elle lui a clos la bouche avec ses doigts. Écoutez-moi. Vous devez comprendre que je serai plus en sécurité avec vous et vous avec moi. Car s'il m'appelle, je devrai le rejoindre par quelque expédient, que ce soit et où que je sois. Il me parle dans mon sommeil. J'entends sa voix dans mes rêves. Il me veut, je ne lui échapperai pas. Van Helsing m'est apparu affecté par ses révélations.
Journal de Mina Harker, 6 novembre. Un peu en contrebas, Van Helsing a déniché un creux dans la paroi, suffisant pour nous abriter. Il m'a confectionné un vrai nid de branches et de fourrures, avec une attention toute paternelle. Il a allumé un feu sans un mot et s'est posé sur le seuil. De ce point surélevé, on distingue facilement la route qui sépare jusqu'à dans la vallée. Je comprends que c'est à dessein que Van Helsing a choisi ce lieu stratégique. Il attend en sentinelle résolue l'arrivée du comte. Soudain, il s'est redressé. J'en ai compris la raison et je me suis vivement portée à son côté. Il s'est retourné vers moi et m'a tendu une paire de jumelles.
Regardez, Madame Mina, là-bas!
Dans le viseur s'offre à moi la boucle argentée de la rivière. Quelque chose bougeait. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Un groupe de cavaliers escortant une lourde charrette traversait l'étendue neigeuse en soulevant un nuage poudreux. Les tziganes, aucun doute. Ils étaient reconnaissables à leurs bonnets en poils drus, à leurs vêtements chamarrés sous leurs manteaux. Et à bord de ce fourgon, j'ai reconnu sans l'ombre d'une hésitation le grand coffre de bois pour lequel nous avons fait un si long et un si épuisant voyage. L'issue était proche.
Vous voyez comment ils se hâtent ? Ils luttent contre la course du soleil. Ils doivent arriver vite avant la nuit.
Je vois 2 cavaliers, derrière, juste derrière.
Ce sont John et Quincy.
Et Jonathan, vous voyez Jonathan?
Où se trouvait-il? Un pressentiment me soufflait qu'il ne pouvait être loin, car je sentais sa présence dans tout mon être. Mieux, je pouvais le distinguer par une incroyable acuité de mes sens, de ma vision. Il cravachait son cheval et rattrapait le retard de nos compagnons, avec Arthur dans son sillage.
« Hurrah ! Les voici, les voici ! Nous allons avoir ici une vraie influence de bohémiens ! Préparons-nous !»
Cette dangereuse perspective l'émoustillait, plus qu'elle ne l'angoissait. Il s'est avancé au beau milieu de la route. À ce moment, des loups hurlèrent sur les hauteurs et la neige a commencé à tomber à gros flocons.
Journal de Mina Harker, 6 novembre. Un miracle s'est alors produit. Au moment de l'anéantissement suprême, un masque de peste s'est déposé sur son visage démoniaque de Dracula, que nous aurions cru incapable de jamais exprimer. Puis, son corps entier s'est flétri avant de tomber en fine poussière que le vent glacé de la nuit a emporté au loin. Aussi longtemps que je vivrai, je n'oublierai jamais cet instant et le sentiment de libération, de paix qui m'envahit alors. Le château lui-même, ses tours corrompues, ses créneaux flétris, a disparu dans l'obscurité. Les loups se sont égayés dans la montagne. Quincy Morris s'est affalé sur la route en pressant sa main ensanglotée sur son flanc.
Je ne regrette rien. Regardez, votre méchante cicatrice a disparu. Ah, ça vaut la peine de mourir pour voir une chose pareille.
J'ai effleuré mon front, redevenu vierge de tout stigmate. L'affreuse brûlure avait disparu comme si elle n'avait jamais existé.
Dieu soit loué. Nous n'avons pas œuvré en vain. La malédiction est vaincue.
Et à notre immense chagrin, en silence et avec le sourire, le galant gentleman, l'homme des grandes plaines, nous a quittés.
Note finale rédigée par Jonathan Harker. 7 ans ont passé depuis notre terrible aventure. Depuis, le bonheur nous a comblés à la hauteur des épreuves que nous avons endurées. Notre petit garçon est né 1 an après la mort de notre ami américain. En son honneur, nous lui avons donné son prénom Quincy, avec le secret espoir qu'il nourrira en lui la flamme de courage et de droiture qui caractérisait notre compagnon. L'été dernier, nous avons enfin trouvé le courage d'accomplir, Mina et moi, un pèlerinage en Transylvanie, sur cette terre sauvage et tourmentée qui restera à jamais pour nous le théâtre des horribles événements qui ont changé notre vie à tout jamais. Le château est toujours debout, qui semble veiller pour l'éternité sur un domaine désolé. John Seward s'est marié et il dirige toujours son asile d'aliénés de Purfleet, où nous lui rendons fréquemment visite. De même qu'Arthur, Lord Godalming a donné un nouveau sens à sa vie en épousant une jeune et belle aristocrate, même si je le soupçonne de conserver dans un coin de son cœur le souvenir intact de sa chère et inestimable Lucie. À notre retour de Transylvanie, j'ai tenu à compiler les notes, les journaux intimes, les cylindres enregistrés, les lettres qui témoignaient de cette aventure inimaginable. Longtemps à l'abri d'un coffre-fort à la banque, cette œuvre forme ce que vous, lecteurs, venez de lire. Curieusement, je note que tout est dactylographié et qu'au fond, hormis quelques écrits de Mina, il n'existe rien de manuscrit, sauf le dernier agenda de Mina, celui de John, le mien et le mémorandum de Van Helsing, que nous avons préservé. Il ne présente donc pas une preuve irréfutable des événements fantastiques qui se sont produits. Qu'avons-nous besoin de preuves ? A lancé une fois le professeur en faisant sauter notre fille sur ses genoux. Nous ne demandons à personne de nous croire. Un jour, le petit Quincy grandira et il apprendra quelle sorte de femme courageuse et magnifique est sa mère. Il connaît déjà sa douceur et sa tendresse. Il apprendra pourquoi tant d'hommes l'ont aimé et pourquoi certains l'ont payé de leur vie.
Free in the game to death.